Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Ma stato forte, che faccio?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fatti fisso? Come fatti fisso?
Bonjour à toutes et à tous, les cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Au menu de ce Cinémascope, des films durs, on peut le dire, hein. Durs, violents, avec quand même un peu de lumière, voire beaucoup de couleurs, s'agissant de Little Jaffna, par exemple. On va parler des films, donc Un médecin pour la paix, Tu ne mentiras point, Little Jaffna, Les musiciens aussi, donc je pense que c'est un peu... Et Un mot des linceuls, là on renferme le truc, avec tout ça en compagnie de Cathy. Salut Cathy.
Salut Sophie, salut tout le monde.
Olivier, bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et René, bonjour René.
Bonjour.
Et puis évidemment Sylvain, salut Sylvain.
Bonjour.
Alors la semaine dernière on a parlé de cinéma et de résistance, comment la montrer à l'écran. On avait parlé notamment de Fanon ou d'Oksana. On poursuit l'exploration avec un autre film à l'affiche.
Dr. Boulish has been referred to as the Nelson Mandela of the Middle East.
Izzeldin Abuelaish is a trailblazing physician, activist and peacemaker.
A man who delivers Israeli babies.
I don't want anyone to dream or to imagine what did I see. Just seconds after I left my daughter's room, the first shell came.
Un médecin pour la paix de Tal Barda. C'est un documentaire avec Izzeldin Abuelaish.
Je te remercie de le prononcer à ma place. J'essaierai de reprononcer parce que c'est bien qu'on dise son nom.
Voilà.
Izzeldin Abuelaish.
Tu es allé le voir et tu voulais vraiment en parler.
Oui, c'est un documentaire extrêmement fort qui raconte l'histoire de ce médecin Gazaoui qui travaille dans des hôpitaux en Israël, qui franchit la frontière Gaza-Israël de tous les jours. Il a de nombreux enfants et un jour, un char israélien, au moment de la première guerre à Gaza en 2009, quand un char s'approche de chez lui et fait mine de tirer sur son immeuble, alors il décroche son téléphone et il appelle en Israël un homme qu'il connaît, un journaliste qui s'appelle Shlomi Eldar. Ce principe en vertu duquel on n'est jamais plus éloigné de deux ou trois personnes de n'importe quelle autre personne. Donc il se sert il contacte ce journaliste pour que ce journaliste fasse ce qu'il peut pour arrêter le char israélien. Et ça fonctionne. Puis quelques temps plus tard, le même scénario se répète. Il rappelle son ami. Son ami est sur Channel 10, la télévision, une des télévisions israéliennes. En direct, il décroche et le docteur Izzeldin Abuelaish lui raconte ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire de nouveau un char s'approche de chez lui, de nouveau son appartement est visé et cette fois-ci il tire. Et dans le tir, il perd trois filles et une nièce. Donc il perd, c'est pareil, j'ai envie de dire les noms, il perd Bessan, Mayar, Aya, sont ses filles, et sa nièce Nour. Personnellement, l'attitude de cet homme après ce qui s'est passé m'hallucine. C'est-à-dire, je suis en arrêt devant son attitude, exactement comme on peut être en arrêt devant une attitude ou une situation d'ultra-violence. Mais c'est son ultra-non-violence qui me met dans cette situation d'hallucination. Donc tu parlais de Fanon et d'Oksana. On va laisser peut-être Oksana un petit peu de côté, quoique évidemment, on est dans le thème de la résistance, de la révolution, de la lutte du respect des droits humains et des humains, dans tous les cas. Mais Fanon et ce médecin représentent l'alternative. Est-ce que je réponds à la violence par la violence, comme le théorise Fanon dans Les damnés de la Terre en particulier, supposant que la violence peut être réellement féconde et donner naissance à un nouvel homme, une nouvelle femme, affranchir véritablement les Noirs d'Afrique subsaharienne, les Algériens d'Afrique du Nord, etc. Ou est-ce que je ne réponds pas, je tends la joue gauche quand j'ai été frappé sur la joue droite? C'est l'attitude qui a été théorisée, bien entendu, on le sait, par Gandhi, reprise en France par quelqu'un comme Lanza del Vasto.
Sachant que Fanon, dans sa pratique de médecin et dans sa pratique personnelle, n'appliquait pas cette...
Si, il utilisait l'électrochoc et l'insulinothérapie. Il mettait certains de ses patients en semi-coma pour les aider à dépasser leur traumatisme, leur stress post-traumatique guerrier. Si, justement, c'est de cette pratique psychiatrique qu'il a tiré l'idée qu'il pouvait y avoir une fécondité de la violence. Et c'est ce qu'il a fait. Je signale aux auditeurs, d'ailleurs, une biographie de Fanon écrite par Adam Schatz, historien américain, c'est un des plus beaux livres d'histoire que j'ai lu depuis que je lis de l'histoire, et qui dresse un portrait extrêmement mesuré de Fanon, mais dans un portrait mesuré doit évidemment subsister cette dimension de cet homme qui, à côté d'un humanisme universaliste, a aussi développé un particularisme identitaire violent, et pour une bonne raison, hein, c'est qu'il s'est battu contre l'Allemagne nazie jusqu'à Colmar, où il a été blessé. Et par conséquent, il a été, en tant que cantillier, il a été pas du tout reconnu dans son action. Ça l'a marqué définitivement. C'est-à-dire, d'un côté, il a été décoré de la Croix de Guerre, et d'un autre, méprisé. Effacé, comme tous les Noirs, des défilés de la victoire, etc., etc. Donc, il est lui-même directement concerné par cette violence et par la réponse qu'il faut avoir ou non face à cette violence. Donc,
si on revient à Izzeddine Abouhalek.
Alors, lui, écrit un livre intitulé « I shall not hate », »,« Je ne haïrai point », le voyage d'un docteur à Gaza sur la route de la paix. Et la dignité humaine, sur la route pour la paix et la dignité humaine. Donc c'est le travail qu'il effectue dans l'optique d'une réconciliation qui pourrait commencer d'ailleurs, il ne l'a pas obtenu, par des excuses de Tsahal, l'armée israélienne, par rapport à ce tir dont ont été victimes ses filles et sa nièce. Il est absolument... ce documentaire vous met dans une espèce d'état extatique, mais pas au sens spécialement positif du terme. Vous ne savez plus que penser, exactement comme vous ne savez plus que penser face à une réaction ultra-violente, mais dont, par ailleurs, vous pouvez comprendre la légitimité. Mmh. Hein, qu'on me comprenne bien. Voilà. Donc, ça nous met vraiment... avoir vu Fanon, puis s'être intéressé à ses écrits, puis voir Médecin pour la paix, c'est se poser devant cette alternative, et on se rend compte que le choix dépend, non pas de notre liberté, mais de notre aliénation. À quoi suis-je aliéné, et à partir de quelle aliénation je vais décider soit de la non-violence, soit de la violence? Voilà, c'est au-delà de notre tempérament, et en même temps, c'est bien notre tempérament qui, à ce moment-là, répond. Personnellement, je ne crois pas que j'aurais été capable de la posture dont est capable ce médecin, donc...
Izzeddine Abouhalek. Voilà. Un médecin pour la paix, oui.
Si je peux faire juste une parenthèse, je n'ai pas vu ce film, donc je ne vais pas en parler, mais... Je pense que vous avez dû entendre parler du film du CPD Farsi, qui est le documentaire qu'elle a réalisé sur Fatima Hassouna, qui a été assassinée à Gaza au mois d'avril, alors qu'elle avait entretenu une correspondance et surtout vidéo sur elle et sur comment on vit au milieu de ces ruines et de tous les morts qui l'ont entourée. En fait, on sent complètement ça. En fait, elle est hyper, hyper souriante, elle reste positive, elle rêve beaucoup. Et alors que elle vit dans un monde où l'avenir est tellement fragile, en fait, et la vie est tellement fragile que c'en est horrible, quoi, en tant que la spectatrice, c'est voilà. Mais c'est vraiment une leçon, en tout cas, à recevoir. Et ce film s'appelle Put Your Soul on Your Hands and Walk. Et il va sortir, je sais pas si on connaît encore la date vraiment du film, mais il va sortir là, dans les prochains mois. Et même s'il y a quelques défauts, il y a une répétition dans le film, mais enfin, en tout cas, on prend vraiment conscience de ce qui est vécu. Et puis, c'était une merveilleuse photographe. Donc, il y a aussi des clichés qu'elle a pris dans Gaza qui sont incroyables.
Allez voir donc ces films. Parce que donc, Un médecin pour la paix... est encore diffusé deux fois, dimanche et lundi à Aubenas, mais il sera aussi diffusé à partir du 11 juin à Rosières, au foyer à Rosières. Donc, allez voir.
Oui, il faut voir ça. C'est vraiment se mettre dans une situation véritablement existentielle de choisir sa propre option, finalement, d'imaginer autant que faire se peut ce qu'on ferait, mais surtout de réfléchir à ce qu'on fait, nous, face à des situations analogues, pas aussi violentes, mais analogues, d'exclusion, de violence, etc. Est-ce qu'on enchaîne sur une autre forme de violence ou est-ce qu'on parvient à cette attitude de retrait et de dialogue qui est véritablement tout aussi étonnante et je dirais irrationnelle que la violence qui est son pendant.
Beaucoup de questions. Merci à tous les deux donc, d'avoir abordé ces deux films parlant de Gaza. Pas beaucoup plus léger, le prochain film. Je t'ai tendu la perche, René, parce qu'il se passe en Irlande dans les années 80 et peut-être parce que c'est un film utile. On vient d'entendre quelques secondes de la bande annonce du film Tu ne mentiras point de Tim Mielens avec Cillian Murphy qu'on a entendu un petit peu. Alors dans la bande annonce on n'entend pas trop, mais j'ai l'impression qu'il est taiseux comme ça pendant tout le film. Il y a également Emily Watson, un film dont le titre original, alors là c'est donc Tu ne mentiras point version française, et le titre original est complètement différent, Small Things Like This.
Ouais. Alors, ce qu'on a entendu ne rend pas compte vraiment de l'ambiance du film. Je vais y venir. Bon, Irlande, 1985, ça c'est le cadre. Bill Furlong est un modeste entrepreneur dans la vente de charbon. Il tâche de maintenir à flot son entreprise et de subvenir aux besoins de sa nombreuse famille. Un jour, lors d'une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui va le bouleverser. Ce secret, longtemps dissimulé, va le confronter à son passé et à une communauté qui vit dans la peur et dans une certaine mesure dans la complicité. Voilà, je dirais de ce film qu'il a été réalisé en mode mineur. C'est une approche musicale, on le sait. Alors là, ça part de cet éclairage tamisé, de ces voix chuchotées, de ces propos laconiques. On ne s'étend pas. Le personnage principal, quand on lui pose une question, prend un temps d'attente, puis répond de façon très brève et à voix basse. de ces pays, il y a aussi ces paysages de pluie. Et ces choix esthétiques s'accordent parfaitement au propos du film, qui est de décrire le climat dans lequel vit une communauté en Irlande, dans une petite ville, dans ces années-là. C'est un climat qui est lié à la présence dans son sein d'un couvent de religieuses qui héberge et éduque à mettre entre guillemets, des filles orphelines et autres filles mères. Il s'agit d'un de ces centres appelés Magdalena Laundries, où ces filles et filles mères faisaient l'objet de maltraitances en tout genre. Alors, ceux qui ont vu le film de Peter Mullen, Magdalena Sisters, s'en souviendront et sauront de quoi il s'agit. Et donc, les religieuses qui encadraient, et il faut bien le dire, maltraitaient ces filles, elles avaient de l'argent et donc de l'influence et du pouvoir dans une Irlande qui, dans les années 80, restait un pays pauvre. Voilà. Et ce qui est particulièrement remarquable dans ce film, ce qui, moi, m'a vraiment touché, c'est le personnage principal. Ce personnage lumineux, magnifiquement interprété par Cillian Murphy, un homme juste, bon père de famille, gros travailleur, soucieux des membres de sa communauté, un bon samaritain, en quelque sorte, et qu'on suit pas à pas dans son quotidien. Un homme marqué à vie par une enfance pauvre et douloureuse. Le père est absent, sa mère va mourir alors qu'il est encore enfant. Bill est un contemplatif, un type qui médite sur ce qu'il voit, d'où ses plans très poétiques où il observe longuement le réel depuis sa fenêtre. Je pense en particulier à ce plan où il dort mal la nuit, il se lève, il met sa chaise et il observe la réalité depuis sa fenêtre, le jour qui se lève. Et donc, il se ressource à travers cette contemplation. Il essaie de comprendre ce qu'il vit au jour le jour et ce qu'il découvre. Voilà. Et la confrontation entre ce personnage si attachant, si vrai, ce juste qui a vu ce qui se passait dans ce couvent et d'un côté, les religieuses, décrites dans toute leur hypocrisie, et d'autre part, la population, qui est dans une certaine mesure complice de cette hypocrisie, parce qu'elle sait et qu'elle se tait. Comme lui dit sa femme à un moment, alors qu'il se confie à elle, « Oh, tu sais, il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. » À un autre moment, quelqu'un dit « Bon, tu ferais mieux de t'écraser, hein, les noces, tu sais, les religieuses, elles ont du pouvoir et puis on a besoin d'elles. » Voilà, elle se tait cette communauté parce que ça l'arrange bien, quelque part, qu'on enlève du milieu ces filles qui font mauvais genre. Mais qui se tait aussi parce qu'elle a peur du pouvoir de ces religieuses qui font un peu la pluie et le beau temps dans la communauté. Voilà, c'est un film, cette histoire-là, les Magdalena Sisters, a fait couler beaucoup d'encre et continuera d'en faire couler beaucoup en Irlande. C'est un scandale, c'est en fait très compliqué. Les religieuses ont évidemment des reproches terribles dans cette histoire, mais elles ne sont pas les seules, je le répète. Les gens, à cette époque-là, savaient et se taisaient. On pense à cette éternelle question, est-ce que les Allemands savaient pendant la guerre? Tu parles s'ils savaient. Voilà. C'est un film qui m'a beaucoup touché, je disais, et je retiens surtout à la fois ce personnage si attachant, si lumineux de Bill Furlong, et cette approche filmique discrète, encore une fois, en mode mineur, qui convient parfaitement pour évoquer le climat qui régnait alors en Irlande et pour l'évoquer sans manichéisme. Mmh. Un film tout à fait remarquable.
Et recommandable. Alors, aussi une histoire de dilemme moral, en fait, de question morale. Qu'est-ce qu'on fait?
Ce type est déchiré, à part ce qu'il a vu, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut se taire. Alors, je ne dirais pas ce qu'il fait, mais c'est plus fort que lui.
Tu ne mentiras point.
Tu ne mentiras
point. C'est le titre de ce film, d'ailleurs. De Tim Mielens, donc, qui est à voir à Ruons, au Quinconce, et la semaine prochaine, il sera à Aubenas et à Barjac.
Voilà. Un jour, il faudra faire une émission sur le pourquoi les titres changent entre la version originale et la version française.
Et oui,
ce serait amusant.
Et parfois, c'est limpide, le film Les Linceuls, c'est la traduction littérale. Parfois, la traduction française est meilleure. Il y avait un film que vous êtes beaucoup trop jeune pour vous souvenir, qui s'appelait Midnight Cowboy en anglais, qui avait été traduit en français par Macadam Cowboy, qui était encore meilleur comme traduction.
Et oui. Macadam Cowboy.
L'éditorial, c'était Midnight Cowboy.
Et là, le nom, c'est Small Things Like These.
La plupart du temps, la traduction est ridicule.
Alors là, le titre n'est pas en tamoul, ni en français. Il est en anglais. Mais il aurait pu être en tamoul, ça nous aurait fait... Voilà. Little Jaffna.
Tu peux me parler d'eux ?
Ils se font appeler les Kilis. C'est une race de perruches colorées qu'on trouve au Sri Lanka.
Kilis !
Et Aya ?
Tout le monde a peur de lui. C'est le plus grand argentier des tigres tamouls en France.
En train de payer !
Tu saurais où poser un traceur ?
Sa principale source de revenus reste le trafic de clandestins.
Eh mais yes, papa.
Ah oui, alors là, on est dans une toute autre ambiance. Little Jaffna, donc de Lawrence Valin, avec lui-même d'ailleurs comme acteur. Cathy et Olivier, vous êtes allés le voir. Alors Cathy, est-ce que tu peux nous dire, nous présenter le film et puis dire ce que tu en penses?
Oui, alors en préparant un petit peu l'émission et j'ai parcouru les différentes critiques parce que moi le souvenir que j'en avais c'était une excellente surprise et en fait en regardant les critiques, en lisant, c'est absolument ce que tout le monde a ressenti quoi. C'est vrai que ce premier long métrage est déjà ultra maîtrisé et on est plongé dans une communauté qu'on ne connaît pas et qui n'est pas du tout exploitée jusqu'à présent au cinéma. Donc ça fait aussi du bien d'apprendre d'autres choses et de connaître d'autres communautés et leur façon de vivre.
Donc la communauté tamoule.
Exactement.
À Paris.
Donc, la communauté, effectivement, c'est sa Little Italy, lui, c'est ça, c'est le quartier de la Chapelle à Paris. Ce réalisateur est un acteur franco-taboul d'origine sri-lankaise qui est né, donc, lui, à Paris et qui avait fait un court métrage qui avait été dont j'ai plus le titre, désolé, mais qui avait été pas mal repéré. Et là, c'est vrai que ce premier long métrage, comme je le disais, c'est une très bonne surprise. Il lui interprète un policier d'origine sri-lankaise qui va être infiltré dans un gang taboul au cœur de Paris pour démanteler un réseau de financement des tigres taboules qui sont considérés comme des terroristes par l'Union européenne. Alors, la parenthèse, c'est ça, c'est juste d'expliquer que cette ville du Sri Lanka a abrité, au-delà des hindous, des catholiques et des musulmans, ils ont donc une prise de pouvoir par les tigres taboules. Et que Little Jaffna... je vais retrouver...
Un petit point historique.
Voilà. Peut-être Olivier fera ça beaucoup mieux que moi, mais enfin, en tout cas, la communauté taboule est minoritaire au Sri Lanka. Et les taboules ont été persécutés par les Cingalais, c'est ça, depuis l'indépendance du pays en 1948. Et une guerre civile a fait rage et les tigres taboules mènent une lutte armée en vue de créer un État indépendant dans le nord et l'est du pays. Bon, bref, voilà, pour revenir au film. Et cette bonne surprise, c'est on oscille vraiment entre le blockbuster et le film d'auteur en fait. Il y a beaucoup d'intimité dans ce film là. Il aborde plein de choses. C'est ce réalisateur là sur aussi les questions culturelles, sociopolitiques et plus intimes. Je trouve qu'il y a quelque chose sur la question de la masculinité aussi qui est intéressante parce que il est partagé entre le côté séducteur et puissant de ces gangs en fait là qui en imposent très viril et puis son rapport avec sa grand-mère aussi où c'est tout en douceur où il y a ce côté protecteur enfin bon voilà moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé et peut-être qu'il viendra nous rejoindre pour en parler mieux encore aux Rencontres des Cinémas d'Europe.
Oh, t'as une touche.
C'est très chouette, ouais. Oui.
Ah ouais,
super.
Voilà.
Et à ce jour, il n'a fait qu'un film.
Oui, un long métrage.
Et j'avais entendu que ça l'avait... En fait, il s'est dit que s'il voulait Enfin, en tant qu'acteur, il n'a pas obtenu des rôles qu'il souhaitait. Il s'est dit, en fait, il faut que j'écrive un film.
Je vais le faire moi-même.
Je vais le faire moi-même, voilà, exactement.
Oui, comme, mais comme et puis il y a beaucoup de cinéma. Il y a des plans extraordinaires dans ce film, en fait. Et dès les premières scènes, hein, on est embarqué dans cette histoire.
J'ai entendu qu'on y allait à fond. Enfin, moi, les critiques, c'est un film qui va à fond de tout, quoi.
Ah oui, oui.
Olivier ?
Oui, ben je confirme, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un film qui se déroule sur deux plans en même temps. Le plan intimiste de ses rapports avec sa grand-mère, et puis aussi d'un membre du gang qui est amoureux d'une femme de la même communauté, mais pas du même clan en quelque sorte, d'une certaine manière, pas de même, voilà. Et donc il y a toute cette partie intimiste, et puis il y a la partie gang, presque film thriller de mafia ou de gang, très bien fait aussi, avec très animé, avec même des codes cinématographiques empruntés à Bollywood, hein, finalement, avec aussi un petit coup d'œil sur des projections de films ou dans des grandes salles où les gens sont debout, dansent en même temps qu'ils regardent les images de la série policière culte.
C'est un autre rapport d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant d'en discuter, un autre rapport au cinéma. Voilà. On n'est pas assis dans une
Et donc, comme le dit aussi Cathy, c'est l'occasion pour nous de faire connaissance avec les Tamouls qui sont présents dans le sud-est de l'Inde. Et effectivement, le nord-est du Sri Lanka, ils ont pratiquement un État à eux en Inde, hein, qui est une fédération, mais effectivement, ils sont minoritaires au Sri Lanka. Et donc, se posent exactement les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, soit je réponds en tant que tigre tamoul à la violence indienne, et sri-lankaise, en l'occurrence sri-lankaise, par une autre violence, ou bien je joue la carte de la non-violence, du retrait, du dialogue, etc. Bon, la minorité, enfin, dans la minorité tamoule de Paris, il y a une minorité qui choisit la violence et qui choisit de se former en gang et qui, par conséquent, dans sa réponse violente à la violence, donc réponse en large partie légitime, qu'on me comprenne bien, hein, mais dans leur réponse violente à la violence sri-lankaise, de l'armée régulière sri-lankaise, eh bien, effectivement, se lance dans le trafic d'êtres humains, comment on appelle, vous savez, il lève un impôt communautaire dans la communauté.
Du racket,
mafieux, c'est le mot que je cherchais, merci René. voilà, donc, effectivement, ce moment où, dans la révolte, on passe aussi de l'autre côté de la norme, et pour le meilleur et pour le pire, évidemment. On a droit à des images qui reprennent effectivement tous les codes des films de mafia.
Allez voir Little Jaffna de Laurence Valin, c'est à Aubenas, et pour l'instant uniquement à Aubenas. On passe pas la bande-annonce pour gagner un petit peu de temps. Pour le prochain film, Les Musiciens de Grégory Magne, qui avait fait Les Parfums ou L'Heure de Rien, oui, avec Valérie Donzelli. Alors Henri Pierre du cinéma du Teil nous a dit qu'il avait bien aimé ce film et que ça avait été le film Afkaé surprise, et qu'il avait été très apprécié par le public à cette occasion. Un film, nous dit-il, d'apparence légère, mais il n'est pas tant que ça. Est-ce que tu es d'accord?
Complètement.
Olivier.
J'ai lu ce message aussi et je suis entièrement d'accord. C'est un film que j'allais voir craignant de me retrouver devant ces films qui paraissent avoir été produits pour les plateformes, un petit peu comme ça, pour faire du remplissage. Et en fait, pas du tout. C'est un film d'une très très grande simplicité, où les sentiments qui sont décrits sont des sentiments d'orgueil, d'amour, de piété filiale, assez simple, mais qui sont présentés avec des moyens cinématographiques aussi simples, si bien que ça passe très bien. C'est un film qui est pas très long, qui y a pas de rôle principal. C'est que des seconds
c'est
rôles.
Un film choral, un film choral.
Voilà. Tu nous repitches un petit peu l'histoire en deux secondes.
Je suis désolé. En deux secondes, la fille d'un industriel, riche, décide de réaliser le rêve de son père. Son père avait fait écrire un quatuor à cordes et désirait que ce quatuor à cordes soit interprété au moins une fois dans une église de son choix, choisi pour son acoustique principalement, et interprété donc par quatre solistes réputés sur des Stradivarius. Je ne sais pas si on dit si de Stradivari, oui, je pense. Et donc, elle achète le dernier qui manque pour la modique somme de 10,5 millions et engage les solistes et les met dans le château familial pour qu'ils répètent et fait venir le compositeur. Par, joué par Pierrot, j'ai oublié son prénom.
Frédéric Pierrot
qui joue super acteur, très très bon, très très crédible, fin. Très fin. Voilà, très fin. Bon, on s'attend quand la fille prend contact avec lui, il fait son bougon comme ça, on croit qu'on va avoir une espèce de caricature de créateur qui délaisse le monde, le bas monde, et pas du tout. C'est tout en finesse. Il reprend possession de l'œuvre qu'il avait écrite quand même 25 ans avant. Donc, et je crois que donc on est au milieu de second rôle, si on peut dire. Ce serait un film choral à proprement parler si on avait des développements, par exemple, sur la vie des différents solistes. Ce qui n'est pas le cas, mais ce qui est en germe à chaque fois, puisqu'il y a des histoires dont on prend connaissance, mais sans qu'elles soient développées.
Une sorte de pilote pour une série, peut-être. Il y a
mais
la série,
ça, mais ça serait beau. Alors, le personnage, ou peut-être le personnage principal du film, devient ce quatuor, et devient donc la musique à laquelle le réalisateur laisse une très grande place. Certains ont trouvé qu'il laissait trop de place. Moi, je crois que c'est parfaitement équilibré. Alors, ça m'a donné effectivement la curiosité de voir qui était ce réalisateur. Tu l'as dit, réalisateur des Parfums, avec Emmanuel De Vos, qui était pareil, un film très simple, mais qui, comme le dit notre ami dans son mail, c'est un film qui paraît simple, pour ne pas dire simplé, et en fait qui a une vraie profondeur. Il y a une vraie réflexion, en l'occurrence ici, sur les rapports du langage et de la musique. C'est vraiment très très bien fait, d'une très grande justesse. Et qu'est-ce que je voulais dire encore, je ne sais plus, si ce n'est qu'effectivement c'est une excellente surprise, et c'est une excellente surprise. Ah oui, si j'avais été voir qui était ce réalisateur, parce que vraiment j'étais étonné, et voilà, j'ai eu la solution, c'est un navigateur qui a fait en solitaire la Transat 650 La Rochelle Salvador da Bahia,
Grégory Magne.
Voilà, et cet homme-là, évidemment, je pense, a le sens des réalisations très concrètes, histoire de pouvoir traverser l'Atlantique, quand même, il vaut mieux. Et je crois que ça, c'est finalement ce qui se ressent dans le film.
Les musiciens à voir à Rosières, à Ruons et au Vence. Et la semaine prochaine, il sera à Vals. Et j'imagine que Cathy, tu iras, puisque tu avais très envie de le voir. Je pense que Olivier et Henri-Pierre t'ont conforté là-dessus. Il nous reste deux minutes pour parler des Linceuls.
Voilà, le dernier opus de Cronenberg. Bon, Cronenberg est un metteur en scène très connu et apprécié, mais là je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Bon, je vais être très bref.
Oui.
Ce que j'ai envie d'appliquer à ce film, c'est le fameux proverbe qui trop embrasse mal étreint. En effet, c'est à la fois une sorte d'enquête policière, un film sur le deuil, un film sur la maladie et le corps malade, un film sur l'opposition entre les grandes puissances, d'un côté les Russes et les Chinois, de l'autre côté les Amériques, donc un film d'espionnage. C'est un film métaphysique sur notre rapport à la mort, etc., etc. Et du coup, le film perd son centre, on sort de là étourdi, on a du mal à suivre et on est un peu perplexe. Mais bon, en même temps, c'est évidemment pas un film de tâcheron, quelque part c'est bien fait et c'est bien dirigé. Voilà, mais je dirais que je suis sorti de là avec une légère indigestion.
D'accord.
Voilà. C'est le contraire exactement des musiciens.
C'est absolument l'opposé de ce que tu viens de dire sur les musiciens.
Vous pouvez quand même aller vérifier par vous-même. Il est au Regain et au Quinconce. Tu voulais ajouter quelque chose,
Cathy? Je plus sois.
Tu plus sois, d'accord. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu as une actualité, un agenda? J'ai vu que tu étais avec la tournée.
Rappeler l'importance, enfin, le fait qu'on tienne beaucoup à la Maison de l'Image aux restitutions des films d'atelier sur lesquels nous travaillons, que nous accompagnons auprès des lycéens, notamment là, ceux de Gimont. Donc il y a une soirée qui s'appelle l'image buissonnière qui aura lieu mardi à 18h au navire. Et si vous voulez voir tout ce travail produit par les lycéens, bien venez nous rejoindre.
Entrée gratuite ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous trois et merci à Sylvain pour cette émission. On se retrouve encore vendredi. Ah là, vendredi, on ne se retrouve pas vendredi prochain. Il y a une sorte d'aqueduc. Donc on se retrouve plus tard, bientôt, au mois de juin. Ciao.
Voilà. Alors, la caméra passe.